Personne ne sait. Nous sommes pourtant des grands spécialistes du sabbat ici. Eh bien, ce n'est pas la création, c'est plus tard, on verra tout à l'heure quand. On va commencer quand même par parler de la création. Je vais me faire aider par Eddie pour essayer d'économiser un peu ma voix. Et je lui demande donc de nous lire les versets 4 et 5 du premier chapitre de la Genèse. On est en plein dans le récit de la création.
Dieu sépara les lumières et les ténèbres. Et Dieu appela les lumières jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il eut un soir, il eut un matin, jour 1.
Voilà. Au moment de la création, Dieu va mettre en place tous les paramètres essentiels de notre univers, et notamment ce qui concerne le temps. Alors le premier jour, qu'est-ce qu'il va fixer comme rythme de temps? La journée qui a un soir et un matin. C'est la première chose qu'il va mettre en place. Il va en mettre en place une deuxième un peu plus tard, toujours en rapport avec le temps.
Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit et pour marquer les saisons.
Les jours et les ans.
Il y eut un soir, il y eut un matin. Jour 2.
Voilà. Deuxième jour, quel est le rythme que Dieu met en place? Les saisons. Quand il parle du jour de la lune détermine quel rythme? Le mois. Le soleil détermine quel rythme? L'année. Donc Dieu commence par mettre en place la journée, et puis il place le mois, les saisons, les années. Et on continue au verset 2 et 3 du chapitre 2.
Et Dieu acheva le septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa en le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en lui il se reposa de toute son œuvre que Dieu avait créée pour faire.
Voilà. Dieu met en place un septième jour. C'est la première fois qu'il est question du septième jour dans la Bible. Après cet acte cosmique de Dieu qui a consisté à mettre en place le temps, les jours, les mois, les années, les saisons, ensuite il va changer de type de création et il va s'occuper de l'homme. Si ce n'est plus l'horloge cosmique dont il est question ici, mais c'est un acte volontaire de la part de Dieu sur lequel le texte insiste très très fort. J'ai souligné ça, vous voyez, il est question trois fois du septième jour. Il est question deux fois de se reposer, mais il est question aussi de toute son œuvre, trois fois de suite, dans un seul verset, dans deux versets. Dieu se repose de son œuvre. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se repose de son œuvre? Il faut savoir que le verbe se reposer, en hébreu, ça se dit Shabbat. Ça ne s'écrit pas exactement de la même manière. Un verbe qui a une assonance très marquée avec le sabbat, puisqu'il s'agit de cesser. Ce n'est pas tellement le repos qui est en cause, c'est plutôt le fait d'arrêter, de ne pas continuer ce qu'on était en train de faire. Pendant six jours, Dieu, par sa seule parole, par la puissance de sa parole, a manifesté une intense maîtrise sur tout l'univers, sur toute la création, sur la terre. Il va séparer les éléments du chaos pour faire de la place à la vie. Et puis il va peupler cet espace de vie, de végétaux, d'animaux et de l'homme finalement, de tout ce qui est vivant. En faisant cela, Dieu a manifesté sa puissance d'une manière tout à fait éclatante. Et tout d'un coup, au septième jour, il s'arrête. Il s'arrête de manifester sa puissance. Il s'arrête de manifester sa maîtrise. Il cesse. Il shabbate. Dieu arrête d'exercer la maîtrise et sa puissance. Il va maîtriser sa propre maîtrise. Et c'est le secret de la douceur de Dieu. En faisant cela, Dieu va se mettre une limite. Il va se mettre une limite pour laisser de l'espace, pour laisser de l'autonomie, pour laisser de la liberté à ceux qu'il a créés, à tout ce qui n'est pas lui. Le fait de cesser implique une double liberté. La liberté de Dieu vis-à-vis de sa puissance, il n'est pas esclave de sa propre puissance, et la liberté pour tous ceux qui sont créés, tous ceux qui vont bénéficier de cet espace que Dieu leur a donné. Dieu prépare ainsi le terrain pour une alliance possible dans le futur. À noter que dans ces versets, il est question trois fois de septième jour. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce septième jour qui concerne l'homme ? On dit souvent que le fondement du sabbat, c'est la création, les sept jours de la création. Il n'est pas question d'homme ici. Il est question de Dieu, curieusement. Mais néanmoins, on sait que l'homme a été créé à l'image de Dieu et on imagine que cela peut les concerner aussi. À peine sont-ils créés que Dieu demande aux hommes de maîtriser la terre et les animaux. C'est le passage suivant.
Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture.
Voilà. Il y a un parallèle ici entre ce qui se passe chez Dieu et ce qui se passe chez les humains. Dieu a exercé sa maîtrise, sa puissance pendant 6 jours. Les humains sont appelés à dominer. Ça revient plusieurs fois. Soumettre la terre, dominez-la, remplissez-la. L'homme va manifester sa puissance auprès de la création sur la terre. Mais Dieu a posé aussi une limite à lui-même. Il a cessé le septième jour. Il s'est arrêté. Il n'a plus rien fait le septième jour. Et il y a une limite qui est sous-jacente dans le texte ici pour l'homme aussi. Elle n'est pas apparente à première vue. Mais qu'est-ce que Dieu donne à manger à l'homme ? Toutes les plantes, tous les végétaux. Ce qui implique que Dieu demande à l'homme de ne pas pratiquer la violence en tuant des animaux pour se nourrir. Dieu cesse le septième jour, l'homme est appelé à poser une limite dans sa maîtrise du monde, en ne détruisant pas la vie, en n'exerçant pas de violence. Une limite qui laisse de la place à la liberté. Dieu laisse de la place à la liberté des hommes. Les hommes laissent de la place à la liberté de la nature. Dans tout cela, il est question donc de septième jour. Il est question de cesser qui se dit Shabbat et qui n'est pas le jour du sabbat. Et il n'est pas question du sabbat en tant que jour comme nous le concevons actuellement aujourd'hui. On ne va plus trouver aucune autre mention, ni du septième jour, ni du repos, ni du cesser, jusqu'au livre de l'Exode. Dans la Genèse, on a uniquement ces versets qui se trouvent dans le premier et le deuxième chapitre de la Genèse. Donc voilà, la création, acte de puissance de la part de Dieu. Dieu cesse cette création le septième jour, il se met une limite, et il invite l'homme aussi à se mettre une limite dans sa domination de la terre en ne détruisant pas la vie des animaux. On va retrouver la question du Shabbat, le verbe shabbaté, dans le début du livre de l'Exode, au moment de la sortie du pays d'Égypte. C'est la première apparition du verbe sabbat dans l'Exode, et Eddie va nous le lire, c'est dans l'Exode au chapitre 5, les versets 4 et 5. C'est Moïse et Aaron qui sont devant le Pharaon, qui essaie de demander au Pharaon de libérer le peuple, et voici la réponse de Pharaon.
Pourquoi, Moïse et Aaron, voulez-vous libérer le peuple de ses travaux ? Allez à vos corvées. Voici qu'est nombreux maintenant le peuple de la terre, et vous les feriez se reposer, Shabbat, de leurs corvées ?
Voilà. C'est Pharaon qui réagit à la demande de Moïse et Aaron. Les Hébreux sont dans son pays pour travailler de plus en plus dur, et ils viennent leur demander de leur donner plus de repos. Ça, c'est vraiment pas possible. Le Pharaon se prépare à durcir la situation du peuple, mais Dieu, lui, va s'entêter dans son projet de libération qui apparaît comme le don d'un sabbat, d'une cessation, d'un repos. Juste avant la sortie d'Égypte, Dieu va donner des instructions à tout le peuple pour la nuit de la libération, la nuit de la Pâque, et la façon de la célébrer à l'avenir. Pour la première fois, il va initier Israël au rythme du Créateur à travers une fête. C'est la première fête dont il est question dans la Bible. C'est la fête des Azim, la fête des pains sans levain. Exode 12, 15 et 16.
7 jours, ce sont des Azim que vous mangerez. Seulement au premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Au premier jour, vous aurez une convocation sainte, et au 7e jour, une convocation sainte. On n'y fera aucun ouvrage, sauf ce qui sera nécessaire pour préparer le repas de chacun.
Voilà, Dieu établit cette première fête, et curieusement, cette fête se passe le 7e jour. Mais il va continuer et donner au chapitre suivant des instructions concernant la fête de la Pâque elle-même. Là, la fête des Azim, c'était ce qui s'est passé la nuit de la libération. La fête de la Pâque, c'est une commémoration qui reviendra chaque année dans l'histoire du peuple d'Israël par la suite. Et là, on en trouve trace dans le chapitre suivant, au chapitre 13.
7 jours, tu mangeras des Azim, et le 7e jour, fête pour le Seigneur.
Voilà, de nouveau, 7e jour de la fête qui est consacrée à quelque chose de tout à fait particulier. Il n'est pas question encore de repos de sabbat hebdomadaire ici, mais d'une fête annuelle. La Pâque, ça se fêtait une fois par an. C'est donc dans le cadre de la commémoration de la Pâque, de la naissance du peuple, de la libération de l'Égypte, en rappelant la hâte du peuple qui devait partir pour la liberté, que Dieu va présenter à Israël une manière bien à lui de rythmer son temps. Un rythme qui a un lien avec la liberté et l'autonomie que Dieu a donné aux humains. Un lien de libération. Lors de la création, Dieu se repose après s'être émerveillé devant tout ce qu'il a fait. Ici, au moment de la Pâque, c'est en l'honneur de Dieu qui crée pour lui un avenir nouveau, un avenir de peuple, un avenir de peuple qui va rentrer dans l'Alliance, qu'Israël doit cesser le travail. Il n'a toujours pas été question du jour du sabbat jusqu'à maintenant, mais du verbe « cesser » qui se dit « Shabbat ». Alors, quand va-t-il apparaître ce fameux mot « Shabbat », le jour de sabbat ? Eh bien, c'est au chapitre suivant, dans Exode au chapitre 16. Et c'est un épisode que vous connaissez tous très bien, puisque c'est l'histoire de la manne. C'est dans ce récit de la manne qu'il est pour la première fois question du sabbat, jour de la semaine. Et cette histoire est vraiment précieuse pour comprendre la signification du sabbat. Peu après leur sortie d'Égypte, le peuple va être éduqué par Dieu, va être éduqué par Moïse à la pratique du sabbat. Ils sont face à un problème majeur. Ils sont dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien à manger et ils risquent de mourir. Il n'y a rien à boire et ils risquent de mourir aussi. Et Dieu va intervenir par le don de l'eau et le don de la manne. C'est un don que Dieu va faire au peuple, mais un don qui sera en même temps un test. Le peuple murmure, reproche, dit à Moïse, « Qu'est-ce que tu as fait avec nous ? On était beaucoup mieux dans le pays d'Égypte. Pourquoi nous as-tu amenés ici pour nous faire mourir ?» Nous lisons cela dans le chapitre 15, le chapitre juste avant, les versets 4 et 5. Pardon. On va d'abord lire celui-ci, l'institution de la manne.
Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Et le peuple sortira, et ils ramasseront une ration d'un jour en son jour, afin que je le teste. Ira-t-il dans ma loi ou non? Le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront amené, et il y en aura le double de ce qu'ils ramasseront de jour en jour.
Le peuple est face à un problème crucial et risque de mourir de faim. Dieu lui donne de la nourriture. En quoi est-ce que ce don est un test? C'est une question un peu étonnante. Un don, ce n'est pas un test en principe. On peut faire une demande et la façon de répondre à la demande sera peut-être un test. Mais un don, c'est assez étonnant. En fait, dans la Bible, le verbe tester ou éprouver ou tenter est un verbe qui manifeste la manière de Dieu, la manière de dire, pardon, que le croyant se trouve devant un choix en lien avec sa foi. Le croyant en Dieu se trouve devant une situation où il y a plusieurs possibilités et il doit choisir une de ces possibilités. Ça, c'est ce que la Bible appelle un test ou une épreuve. Même des choses très positives comme la manne ou l'eau. Et Dieu, pour ça, va donner des instructions. Fera-t-il bien? Ira-t-il dans ma loi, Torah ou non? Je vous rappelle que la loi, le mot Torah, ça veut dire ce qui indique la bonne direction, ce qui indique comment vivre, comment être heureux. Et nous revenons maintenant au texte du chapitre précédent qui parlait de l'eau.
Le peuple se mit à maugréer contre Moïse en disant « Qu'allons-nous boire ?» Là, il lui donna décret et coutume, et là, il le mit à l'épreuve. « Car je suis le Seigneur, celui qui te guérit. »
Voilà. Le peuple maugréé, il râle, il accuse. « Qu'allons-nous boire ? Qu'est-ce que tu as à nous proposer ?» Et là, Dieu le met à l'épreuve, il le teste. C'est le même mot qui est employé qu'au chapitre 16. Et Dieu le teste, pourquoi ? Car je suis le Seigneur qui te guérit. C'est étonnant. Dieu n'est pas en train de proposer une épreuve, un examen à réussir. Il est en train de lui proposer de le guérir de la soif et des maladies qui pourraient l'atteindre. Mais voilà, le don de Dieu n'est pas quelque chose qui est suffisant en soi. La manière de le recevoir est aussi importante. Voilà ce que nous apprend ce récit. Et c'est en cela que le don peut constituer un test. La loi, c'est un frein, c'est une limite contre la convoitise et contre la volonté de profit pour soi-même, de profit personnel. La loi, c'est une limite que Dieu met à certaines choses. Le don, c'est le signe d'une générosité qui appelle en retour la confiance en celui qui donne. Même test donc pour l'eau et pour la manne. Comment ce don va-t-il être accueilli? Comme un dû ou avec une reconnaissance qui se traduira par le fait d'écouter Dieu et d'essayer de mettre en pratique ses instructions pour être heureux? Dieu nourrit Israël pour qu'il vive, pour qu'il soit heureux, pour qu'il prospère, mais pour que le peuple vive vraiment, Dieu entreprend de l'éduquer pour qu'il ne se laisse pas entraîner sur des chemins dangereux et porteurs de mort, bien qu'il ait fait un don de vie. Dieu est le premier touché par les murmures que le peuple adresse à Moïse et à Aaron. Il sait que le peuple meurt de soif. Il y est sensible, il veut trouver une solution. Et il y répond en donnant de l'eau et de la nourriture. Moïse va même préciser de la manne et des cailles, ce que Dieu n'avait pas dit. Dieu avait parlé uniquement de manne. Le soir, il voit des cailles arriver sur le terrain, il les prend et il les mange. Et le lendemain matin, le peuple est très étonné de voir quelque chose qui est décrit comme quelque chose de menu, de granuleux, comme le givre sur la terre, que chacun va recueillir en fonction de sa faim. Un peu plus loin, au verset 15, 16.
C'est le pain que le Seigneur vous a donné à manger. Voici la parole que le Seigneur a ordonnée. Ramassez-en chacun selon ce qu'il mange. Vous prendrez un homère par tête, d'après le nombre de vos gens, chacun selon ceux qui sont dans sa tente.
Voilà deux choses à noter dans ces versets. Dieu fait un don, il donne de la nourriture, il donne la manne. C'est un don de Dieu. Deuxième chose, chacun doit l'employer selon ses propres besoins. Pas besoin d'accumuler, pas besoin de faire des réserves, pas besoin de thésauriser. Chacun prend ce qu'il lui faut et il aura assez. Et quand on continue un petit peu plus loin, verset 17-18.
Les Israélites firent ainsi. Ils recueillirent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'omer. Celui qui en avait plus n'avait rien de trop. Celui qui en avait moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce dont il avait besoin.
Voilà. Le don de Dieu est quelque chose qui suffit à chacun. On peut lui faire confiance. Et Dieu promet d'en redonner le lendemain. Et ici intervient cette notion de confiance, ne pas accumuler un jour en sachant que le lendemain, Dieu va donner de nouveau. Verset suivant, 19-20.
Que personne n'en garde jusqu'au matin. Mais il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Il s'y mit des vers, et cela devint une puanteur.
Dieu avait mis une limite. Prenez juste ce qu'il vous faut pour la journée. Certains ont voulu franchir cette limite, négliger l'instruction, la Torah que Dieu leur avait donnée, et ils sont bien attrapés, puisque le lendemain, tout a pourri. Il y a des vers, il y a de la puanteur, et ils ont fait vraiment pire que mieux. Ça, c'est la première partie du test. Est-ce que Israël va faire confiance à Dieu en croyant que Dieu va répéter son don le lendemain et les jours suivants et tous les autres jours? S'il est méfiant, s'il convoite, s'il veut accumuler, cela va pourrir le don de Dieu. Et c'est ici qu'il va intervenir le sabbat. Dieu va éduquer le peuple concernant le sabbat, mais il va aussi éduquer le peuple grâce au sabbat. Alors, allons-y. Verset 5.
Le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront amené. Il y en aura le double de ce qu'ils ramasseront de jour en jour.
Voilà. Dieu divise la semaine en deux parties. Il y a la semaine elle-même, où on récupère chaque jour ce dont on a besoin. Puis il y a le week-end. Le week-end, pour les Juifs, ce n'est pas samedi, dimanche, c'est vendredi et samedi. Et le vendredi, ils doivent prendre double ration. Ils ont une double ration. Et cette ration sera suffisante pour tout le week-end, pour qu'ils n'aient pas à ramasser le sabbat. Voyons un peu plus loin, versets 22 à 24.
Le sixième jour, ils en recueillirent le double, deux homères pour chacun. Les chefs de la communauté vinrent le dire à Moïse, qui n'en avait pas encore parlé au peuple. Moïse leur répondit, « C'est ce dont a parlé le Seigneur. Demain, c'est un repos sabbatique, Shabbaton, un sabbat de sainteté pour le Seigneur. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, et tout le surplus, laissez-le en réserve jusqu'au matin. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Cela ne devint pas une puanteur. On n'y trouva pas de vers.
Voilà, c'est là la première apparition du jour de sabbat dans la Bible. Au moment où Dieu dit au peuple, prenez le double le vendredi et vous n'aurez pas de problème pour le lendemain, pour le sabbat. Ce sera un repos pour vous, une cessation. Vous ne devrez pas aller recueillir cette manne. Vous pouvez me faire confiance, il y en aura assez pour deux jours. C'est tout le contraire de ce qui se passait pendant la semaine. Et il continue les versets suivants, 25 et 26.
Mangez-le aujourd'hui, car ce jour est Shabbat pour le Seigneur. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dans les champs. Six jours, vous la ramasserez. Le septième jour, c'est Shabbat. Il n'y en aura pas.
Moïse, face à l'étonnement du peuple, va donner des instructions très précises. Pour Dieu, ce jour de Shabbat, qui s'écrit avec deux B, contrairement au verbe qui s'écrit avec un B, ce jour de Shabbat est saint, parce qu'il est différent de tous les autres jours, car il interrompt l'œuvre quotidienne de donner la manne. Pour Israël aussi, c'est un jour à part, c'est un jour saint dans le sens de mise à part. Il n'a pas à travailler ce jour-là pour récolter la manne, et la cuisiner. On a donc une scène qui se divise en deux parties. Il y a ce qui se passe pendant la semaine. Pendant la semaine, Dieu fait le don de la manne chaque jour. Pendant le week-end, il fait le don de la manne un jour pour deux. Et cette manne ne va pas pourrir alors que les autres jours, elle pourrissait. Pendant la semaine, Dieu donne des prescriptions sur la manière d'agir, sur la manière de se comporter. Le week-end, Dieu donne des instructions concernant à propos du sabbat. Et ici, il donne un ordre précis au verset 26. Chaque septième jour, ce sera sabbat. Il y a juste après un tout petit récit de transgression de cette Torah que Dieu avait donnée à l'homme.
Le septième jour, des gens sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?»
La loi est importante, les instructions pour être heureux, pour être vivant sont importantes et nécessitent une écoute active. Comme la manne est un don du sabbat, est un don de Dieu, le sabbat est aussi un don de Dieu. Et le signe de ce don de Dieu, c'est la double dose de manne qu'il lui donne le sixième jour. Le sixième jour est le signe qui accompagne le don du sabbat. Nous lisons encore un peu plus loin.
Regardez, si le Seigneur vous a donné le sabbat, il vous donne aussi le sixième jour de quoi manger pour deux jours. Que chacun de vous reste donc où il est, que personne ne sorte de chez lui le septième jour. Ainsi le peuple se reposa, Shabbat, le septième jour.
On peut se poser la question, en quoi le repos du sabbat est-il un don? Comme la manne était un don. Il faut peut-être revenir à la situation que connaissait le peuple quand il était en Égypte, où le pharaon le faisait travailler comme esclave et où le peuple n'avait pas droit au repos. Maintenant qu'il est sorti de ce pays d'Égypte de servitude, Dieu est le nouveau maître du peuple. Et Dieu, lui, va libérer le peuple. Il va le libérer de tout travail nécessaire. Ils n'ont pas besoin de cuisiner ce jour-là. Dieu va éduquer le peuple à respecter son propre rythme divin. Dieu veut pour eux une véritable liberté. Les Juifs dans le désert, le sabbat le montre, n'ont plus à être les esclaves de personne, et peut-être surtout même pas d'eux-mêmes, de leur faim, de leur peur de manquer, de leur désir d'avoir plus, de vouloir accumuler. Le sabbat est un antidote à l'esclavage intérieur. Et là, peut-être que c'est quelque chose qui nous concerne. La première partie du test invitait à faire confiance à Dieu en ne faisant pas de réserve d'un jour à l'autre. La seconde vise une autre forme de lâcher prise, le fait d'être capable de s'arrêter, de mettre une limite à son propre travail, de se reposer en faisant confiance à Dieu qui donne à la fois la nourriture et le repos pour notre vie et pour notre liberté. Et c'est à travers une expérience bien concrète, bien réelle, ancrée dans la vie quotidienne, l'expérience de la manne, une expérience vitale que Dieu donne ce premier enseignement à propos du sabbat. Je pense particulièrement aux étudiants en ce moment. J'ai une de mes petites filles qui est en première année à l'université et elle, c'est une grosse travailleuse. Pendant toute la session de bloc et d'examen, elle étudiait tout le temps. Elle venait à table avec ses syllabus. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un esclavage du travail? Les étudiants qui veulent tellement réussir leur session d'examen, qui n'osent pas une seconde envisager d'accueillir le repos du sabbat et de cesser d'étudier ce jour-là. C'est une question très, très concrète. Est-ce qu'il n'y a pas là une question de confiance en Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas là une question de respect de sa parole pour notre bien? Travailler tout le temps, c'est mauvais pour la santé, tout le monde le sait. toutes les études scientifiques le démontrent, on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer à certains moments pour que les choses puissent s'ancrer dans notre mémoire. Pour moi, quand je me rappelle de mes 8 années à l'université, un des meilleurs souvenirs, c'est le sabbat pendant les périodes de bloc. Un sabbat où je ne faisais rien, enfin rien d'étudié, avec une conscience parfaitement tranquille, en étant vraiment libre ce jour-là de faire plein d'autres choses, d'aller à l'église, d'étudier la Bible, de sortir, d'aller me promener. Et c'est vraiment pour moi un magnifique souvenir. C'est peut-être ça que je voudrais proposer à nous tous de faire comme expérience. Dieu nous enseigne sa propre manière d'être et il nous enseigne aussi, comme lui, à accepter la limite de se dire qu'on ne doit pas travailler tout le temps, qu'on ne doit pas être esclave ni des autres ni de soi-même, mais qu'on peut oser la confiance. Amen. Thank you.